Radio Immo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.
Bonjour Thierry Laroupon.
Bonjour.
Vous êtes le président de BNP Real Estate, je suis ravi de vous recevoir ici sur le plateau de Radio Immo. Thierry Laroupon, on le sait depuis quelques années maintenant, ça commence à durer, le logement, la construction neuve traverse une crise sans précédent. J'aimerais vous demander, aux professionnels que vous êtes, quel est l'état des lieux que vous faites actuellement sur le marché de la construction de logements neufs.
Alors, c'est une des pires crises qu'on ait jamais eu à traverser, puisqu'en fait, c'est à la fois une crise de l'offre et de la demande. Si on reprend les différentes crises dans lesquelles on a vécu depuis 40 ans d'immobilier, je dirais qu'elle me rappelle la crise des années 90, qui a duré 7-8 ans. La crise des années 2000, qui était la crise Internet, elle a été une crise de 18 mois. Et la crise de 2008, qui est la crise financière, hein, elle a duré là aussi 18 mois. Celle-là a commencé quelque part au moment du Covid en 2020. Ensuite, on a eu une accélération, on pensait que les marchés revenaient. Et puis, tout s'est à nouveau effondré avec une crise qui a été à la fois une crise due à l'inflation, à la hausse des taux d'intérêt, à l'explosion des coûts de construction. Ensuite, les banques ont restreint considérablement les prêts. Et donc, on se rend compte qu'on a un parcours résidentiel qui est totalement bloqué. Tous les chiffres sont, je dirais, entre catastrophiques et décevants, puisqu'on est entre moins 30 et moins 40% sur les réservations, sur les mises en chantier. Et si vous prenez les acteurs de la promotion, tous ont divisé leur volume par deux ou trois. Donc, c'est une crise qui va durer. Parce que je vois peu de raisons pour l'instant d'une reprise. La perspective des municipales de mars prochain va aussi entraîner un gel des décisions jusqu'à ce que les nouvelles équipes municipales arrivent au pouvoir.
Là, vous le constatez, effectivement, on voit un ralentissement des autorisations d'urbanisme. Ça préfigure la campagne des municipales de 2026 et bien sûr l'échéance cruciale de 2027 avec la présidentielle. Vous avez évoqué effectivement cette crise durable qui est multifactorielle, qui a finalement rassembler une conjonction d'événements assez délétères, hausse des matériaux, hausse des taux de crédit, des taux d'intérêt. On a aussi une normalisation de la réglementation qui est devenue assez offensive. Je fais allusion notamment à ce qu'on pourrait approcher comme étant un frein ou des freins à la construction. Et moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que la fin du Pinel, il faut quand même se rappeler que depuis 1984, avec Pierre Mianiori, vous avez toujours eu un soutien d'aide à la pierre, si on peut appeler ça comme ça. Périssol, Mianiori, Besson, ou Pinel. C'est la fin du Pinel. C'est la fin du Pinel, il n'y a plus d'aide à la pierre. Vous avez le zéro artificialisation nette qui contraint aujourd'hui le mode de construction. Vous avez des procédures administratives qui sont parfois lourdes, vos confrères le disent très souvent. Et le fléau de votre métier, c'est les recours. Quand vous prenez ces freins à la construction, vous vous dites triple, quadruple peine. Et comment, vous, de votre point de vue de président de BNP Paribas Real Estate, vous essayez d'anticiper ces mécanismes-là pour essayer de vous adapter à cette nouvelle conjoncture?
Alors, il y a plusieurs sujets. Ils ne sont pas cumulatifs, Dieu soit loué, mais enfin, ils impactent l'industrie immobilière dans l'acte de créer, dans l'acte de construire, surtout dans les délais de construction. Si vous prenez le Pinel, c'est vrai que quand on est filiale d'une banque, BNP Paribas, clairement, nous, on faisait 56% de nos ventes avec la clientèle Pinel. Cette part-là du marché a totalement disparu. Donc, on a dû réadapter nos réseaux, nos forces commerciales vers de la vente directe, vers de la vente auprès de CGP, vers de la vente Internet. Donc, on a diversifié nos réseaux de vente de manière à faire face à cette déshérence.
Et ça, vous l'aviez anticipé?
On l'avait anticipé. Heureusement pour nous, parce que quand on passe de 56% à quasiment zéro,
c'est clair.
C'est quelque chose qui va impacter très lourdement l'industrie immobilière.
C'est un process de vente également de la demande.
Mais bien sûr. Ça, c'est le premier point. Sur l'inflation normative, je dirais que moi, elle ne me choque pas parce qu'en fait, elle fait partie des engagements qu'on peut avoir en termes de RSE. Il faut quand même pas se cacher. L'industrie immobilière est responsable d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il est normal qu'on s'applique à nous-mêmes des indices de performance énergétique. Et il y a un gros enjeu. Si vous prenez le parc francilien, par exemple, il fait 56 millions de mètres carrés, vous avez à peu près 50% de ce parc qui a plus de 25 ans. Vous avez moins de 10% du parc qu'à moins de 10 ans, donc qui correspond à l'offre verte. Si vous prenez les logements, vous avez plus de 5 millions de logements qui sont des passoires thermiques, des passoires énergétiques. Donc là, effectivement, il y a un besoin de réadaptation de ce parc résidentiel et de ce parc tertiaire vers d'autres usages et puis vers d'autres réglementations énergétiques. Donc moi, c'est pas ce qui me choque. Ce qui est plus compliqué, effectivement, c'est tout ce qui ralentit le process de création. Si vous prenez, par exemple, un immeuble comme Étal 57, qui est notre siège, on a quand même mis 7 ans pour que ce magnifique édifice que vous connaissez, que vous avez visité, qui est une ancienne fonderie transformée en bureau, on a mis 7 ans entre le moment où on a signé le terrain et au moment où on a livré l'opération. Dans un autre pays européen, ce serait plutôt 4 à 5 ans.
Et vous l'attribuez à quoi ?
La lourdeur administrative. Vous prenez une autre opération qu'on a juste à côté de Metal 57, qui est D5, qui sera le futur siège de Renault. On a 40 000 mètres carrés de bureaux et on devait avoir 20 000 mètres carrés de logements qui sont devenus 12 000 mètres carrés à cause de recours de voisins qui savaient pertinemment qu'on allait construire. Ils le savaient quand ils ont acheté. Et on a décalé de 2 ans une opération qui aurait dû créer 20 000 mètres carrés de logements. Il n'y en aura plus que 12 000 mètres carrés de logements dans un secteur tendu Boulogne où il y a un vrai besoin résidentiel. Donc voilà un exemple de recours abusif qu'on aurait dû financiariser d'ailleurs, moi c'est ma demande, et qui décale à la fois dans le temps décélère en volume, puisqu'en fait on va perdre 8 000 mètres carrés de logement et on va y accueillir une des plus grandes entreprises mondiales. Donc tout était très vertueux dans cet acte de construire et pour autant on a perdu 8 000 mètres de logement et on a perdu 2 années de temps de construction.
Voilà. C'est proche d'une extorsion de fonds. Le recours abusif.
Il y a clairement des recours.
Vos collègues, je les interroge régulièrement, disent que c'est un fléau très difficile à endiguer. Et pourtant, la réglementation vous a un peu aidé. Julien Normandie avait limité la capacité nuisible, finalement, de faire des recours. Parce qu'il y a parfois des recours justifiés, il faut le rappeler aussi.
Oui, tout à fait.
Et également. Mais là, pour le coup, vous étiez flagrant sur un...
Deux choses pour ça. D'une part, l'industrie immobilière, ça doit être une industrie qui doit faire accepter l'acte de construire. Donc nous, on passe énormément de temps avec nos équipes à aller rencontrer les élus, rencontrer les habitants et avoir des itérations avec eux, montrer nos projets, partager les projets avec les architectes et la population. On essaie d'avoir une offre de service également qui permet d'avoir un impact positif. Vous l'avez vu sur Metal 57, on a une rue intérieure qui peut être ouverte à la population. On a ce qu'on appelle des espaces commerciaux. Vous avez 5 ou 6 restaurants, un club de sport qui est ouvert à l'extérieur, un toit terrasse avec rooftop qui a accueilli des ateliers pédagogiques pour
accessible
les anciens. Enfin, accessible sur rendez-vous pour le rooftop.
Bien sûr, oui, pour le
mais
rooftop.
On a par exemple fait des ateliers pédagogiques pour les enfants des écoles de Boulogne ou pour les seniors de Boulogne. Donc je pense que cet immobilier-là, qui est un immobilier inclusif, qui apporte à la population, qui n'est plus un immobilier où vous êtes enfermé avec vous-même et vos pairs, c'est quelque chose qui facilite l'acceptation par la population de l'acte de construire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, sur les recours, quand ils ne sont pas, constructifs, quand ils ne sont pas force de proposition, c'est très clairement des recours chantage et des recours financiers. Et donc là, effectivement, le texte qu'avait fait voter Julien de Normandie nous aide, puisqu'en fait, maintenant, on est sur 10 mois sur du logement.
Oui,
moi, sur
sûr.
Du tertiaire, on peut avoir 2 ou 3 ans de retard à cause de ces retours. Et ça, c'est dommage.
Alors, c'est un vrai sujet, parce que on le voit, quand on prend les autorisations d'urbanisme, je parle pour reprendre les chiffres, nous avons quasiment les mêmes chiffres qu'il y a quasiment 40 ans. Et je ne parle pas du logement social, qui est un vrai sujet également. Sauf qu'entre 1984 et aujourd'hui, c'est 17 millions d'habitants supplémentaires. Surtout que les phénomènes de décohabitation ont doublé quasiment la demande de logement à démographie constante. Quels sont, pour BNP Paribas Real Estate, au-delà de la vision que vous avez sur l'immobilier, puisque on le voit, le portefeuille de l'activité de BNP Paribas Real Estate, c'est à peu près, vous l'avez dit, 65% de logements.
Oui, tout à fait.
De logements. Est-ce que vous faites des offres? Est-ce que vous avez réduit vos marges? Est-ce que aujourd'hui, systématiquement, vous avez des balcons, des terrasses? Comment vous vous adaptez à cette nouvelle demande pour conquérir un marché qui est atone, qui s'est rétréci de moitié dans les 2 dernières années? Et pour survivre finalement à une conjoncture particulière où l'acte de construire devient de plus en plus compliqué.
Eh bien, on a accepté le principe de réalité, c'est-à-dire qu'on a corrigé nos prix. On est sur des baisses de prix entre 8 et 15% de manière à relancer les ventes. On ne souhaite pas garder des stocks d'invendus qui sont trop importants. Pour l'instant, on est à 6%, mais je vous rappelle que dans les périodes normales, on était à moins de 1% d'invendus. On adapte également nos logements, c'est-à-dire que pendant le Covid, on a pris un certain nombre d'engagements, notamment d'avoir systématiquement des terrasses, des espaces extérieurs, une pièce en plus, des aménagements Wi-Fi, de manière à ne pas avoir de discrimination numérique. On l'a vu pendant le Covid, certains avec accès à Internet, d'autres non.
Absolument.
Donc c'est très très discriminant. On va travailler sur des zones qui sont un petit peu différentes. On était très 92, en gros, entre 8 et 10 000 euros du mètre. On va maintenant aller sur de la première et deuxième couronne, entre 4 et 7 000 euros du mètre. On va aller beaucoup plus en région également. On va s'exprimer sur des opérations de plus petite taille, du diffus entre 50 et 100 lots. Quand on était sur des grosses opérations d'aménagement de véritables quartiers de ville, je pense à ce que nous avons à Clamart, à Bagneux, à Nanterre, ces très grosses opérations de 500-600 lots, je dirais qu'elles seront maintenant l'exception beaucoup plus que la règle. Donc la conséquence, elle est quantitative, c'est-à-dire que lorsque nous avions une courbe d'envol qui nous permettait d'aller caresser les 6000 logements, on était à 2000 lots l'an dernier. Donc vous voyez que c'est une attrition très forte hein, sur les volumes, et ça n'est pas singulier à BNP Paribas Real Estate, puisque quand je compare par rapport à mes pairs, ils sont tous sur des réductions entre 50 et 70%.
Alors, de manière très opportune, vous allez maintenant sur des opérations que vous n'auriez pas forcément traitées il y a quelques années. Ça peut aller, quoi, 30 lots, 40 lots ?
Non, on commencera à 50-60 lots.
À 50-60
lots, jusqu'à une centaine de lots. C'est vraiment du diffus, ça présente plusieurs avantages.
Alors, le risque commercial... Alors, vous avez parlé du diffus, est-ce que vous pouvez préciser à ceux qui nous écoutent ce qu'est le diffus ?
Oui, alors auparavant, on était plutôt... des co-aménageurs de très grands quartiers, hein, par exemple les Groux à Nanterre, par exemple Clamart, le secteur de Panorama. Là, on va aller sur des emprises foncières qui sont beaucoup plus petites, où on va faire une centaine de logements seulement. C'est ce qu'on appelle le diffus. Donc ça veut dire, c'est un changement de méthodologie très important, puisqu'auparavant, vous aviez de grands développeurs qui répondaient à des appels d'offres, à des concours de la ville de Paris ou de la métropole du Grand Paris. Et là, on va travailler avec des particuliers, racheter des fonciers, des tènements fonciers. L'avantage, c'est que...
Là aussi, c'est très opportun. Vous saisissez, en termes de business, si je peux...
C'est ça.
Exprimer ainsi
c'est ça.
Les opportunités qui se présentent.
Alors, ça a plusieurs avantages. D'une part, on a une exposition au risque qui est beaucoup plus granulaire, puisque c'est des opérations de 50-100 logements, quand parfois on en avait 600 sur le même site. Des opérations beaucoup plus courtes, 3-4 ans, alors que les grosses opérations d'aménagement peuvent mettre 8 à 10 ans. Et ces opérations où vous avez en fait un écoulement qui est beaucoup plus naturel, parce qu'il n'y a pas un effet de masse. Donc ça ne présente que des avantages. L'inconvénient, c'est qu'il faut beaucoup plus de prospecteurs fonciers, parce qu'évidemment, il faut dupliquer, multiplier le nombre d'opérations. Mais je pense qu'on sera tous amenés à travailler comme ça dans le futur.
Vous avez parlé effectivement donc, des communs, des balcons, terrasses adaptés aux usages, de la baisse des prix, d'adaptation de la baisse des prix, sur un marché qui s'est quand même réduit, ce que vous avez annoncé. Vous étiez à environ à 6000 unités chaque année, là vous étiez à 2000.
À 2100 exactement.
À 2000, ce qui est quand même considérable. C'est une réduction des deux tiers quand même, c'est pas neutre. Je voudrais qu'on évoque, si vous voulez bien, Thierry Laroupon, ces nouveaux modes constructifs. On parle aujourd'hui, alors il n'y a pas de débat hein, sur les immeubles bas carbone, vous étiez déjà vertueux, hein, bien avant que la législation intervienne de manière offensive. La construction neuve a toujours été assez vertueuse en matière de consommation énergétique, mais également en termes de matériaux. On parle beaucoup aujourd'hui de modes constructifs en utilisant le Building Information Model, le BIM, ou le Building Operating System. C'est peut-être une alternative à la crise. Lorsque, par exemple, on est sur de l'ossature bois, sur des matériaux bas carbone, complètement alors à la fois géolocalisés, parce qu'on sait d'où ils viennent, avec un traçage des matériaux, est-ce que, quand on voit les chiffres, on se rend compte quand même que la sortie n'est pas évidente ? Elle est plus chère, elle n'est pas évidente à mettre en place, on a l'impression que cette filière est en train de s'organiser. Vous, en tant que professionnel, sans forcément trahir le béton, entre guillemets, puisque on peut parler de mix matériaux, hein, donc qui mélange le béton et le bois. Quelle serait votre approche sur ces nouveaux modes constructifs et comment vous, BNP Paribas, vous l'avez adapté ?
Alors, on a été parmi les premiers à croire à ces nouveaux modes constructifs. Je peux citer par exemple le bois. On a fait une des toutes premières opérations en bois en Île-de-France, qui était à Saint-Denis, dans la zone du Landy, qui s'appelait Curve. Il y avait un ensemble de logements et un ensemble tertiaire qu'on a fait. C'était un magnifique bâtiment tout en courbe qu'on a fait avec Chartier d'Alix. On avait donc deux bons tests, puisque dans un cas, on ciblait une clientèle de privés qui achètent leur appartement. Hein, c'est l'achat d'une vie, un appartement. Et dans l'autre, on avait un double test commercial, puisqu'il fallait trouver un utilisateur et vendre l'opération. Comment ça s'est passé ? En fait, ça a très très bien fonctionné. Et c'était une des premières fois où on faisait des logements en bois en France. Hein, donc c'était vraiment un test...
En ossature bois.
Ossature bois, tout à fait. Tout à fait. Et donc, on a pré-commercialisé la quasi-totalité des logements et on a pré-commercialisé l'immeuble de bureau à l'ARS en l'occurrence, qui a décidé de venir là parce que c'était un immeuble exemplaire, très vertueux, avec une très bonne empreinte carbone. Et on l'a vendu d'ailleurs deux fois, un investisseur qui l'a revendu une deuxième fois. Donc on a eu un très très bon test. Ça, c'était le premier sujet.
À des prix maîtrisés ?
À des prix maîtrisés, tout à fait. L'autre test qu'on a fait, c'est une opération qu'on a conduite, qu'on avait rachetée à la banque, qui était l'ancienne tour UTA, sur la commune de Puteaux. Vous voyez, c'était un immeuble qui était sans doute un des pires immeubles IGH des années 70, qui était un gouffre thermique. Et on a préféré, en fait, transformer cet IGH en béton, gouffre thermique, en un immeuble code du travail. on a perdu 7000 m2, on est passé de 27000 à 21000 m2, et on a fait un des premiers immeubles en bois Côte du Travail de la Défense qu'on a pré-commercialisé à un utilisateur acquéreur qui s'appelle Alliance Trading. Donc ça montre bien que lorsqu'on a cette innovation constructive, c'est-à-dire par exemple quand on accepte de perdre des mètres carrés de béton IGH pour faire du Code du Travail en bois, c'est vertueux, c'est rationnel sur le plan économique et ça a été très différenciant pour les utilisateurs puisque alors qu'on a un taux de vacance à la Défense qui est à plus de 10%, on avait deux utilisateurs qui étaient prêts à s'engager sur cette opération. Le troisième sujet qui me semble intéressant, c'est le faire avec. Je crois que dans le futur, faire table rase d'un immeuble existant sera véritablement très compliqué. Et je pense que les promoteurs qui ont cette expertise de faire avec ont une valeur ajoutée. Nous, ça a toujours été le cas. Je pense à ce qu'avait fait Philippe Zivkovic avec les grands moulins de Pantin.
Oui, bien sûr.
Il avait fait le siège avec Reichen et Robert.
Magnifique.
Magnifique siège et qui a très très bien vieilli. On fait avec. Je pense à ce qu'on a fait sur Metal 57. On a gardé 50% de l'emprise originale de l'immeuble qui est une usine de fonderie. Je pense également à ce que l'on fait Boulevard des Dames à Marseille. On avait trois immeubles de bureaux de la banque qui étaient totalement obsolètes, qu'on transforme dans un hôtel contemporain avec Gensler comme architecte et on l'a pré-commercialisé à Ruby et vendu à la française. Donc cette notion de faire avec est quand même très très importante parce que mettre par terre et reconstruire avec de nouveaux matériaux, c'est compliqué. On l'avait déjà fait en son temps avec City Light, vous savez, les tours du pont de Sèvres dont on parlait. Les 70 000 m2, plutôt que de les mettre par terre, on les a réinventés avec Dominique Perrault comme architecte. On en a fait
beaux
cher. Objets. Ça coûte un petit peu plus cher.
En fait, vous faites de la régénération, vous redonnez vie finalement à un bâtiment. Et d'ailleurs, c'est formidable. Hein, je vous encourage, les amis, à aller visiter Metal 57 parce que c'est comment finalement de la tradition, de l'histoire, de Boulogne également, vous arrivez à vous projeter dans le futur. On parle beaucoup justement de régénération urbaine, de transformation des bâtiments ou de réversibilité.
Oui.
Cette réversibilité, en termes d'innovation, elle est chevillée au corps de BNP Paribas Real Estate. C'est très clair. Est-ce que c'est aussi une alternative dans votre business model d'arriver finalement à travailler sur la régénération urbaine, autrement dit, bâtir sur le bâti ou rebâtir sur le bâti?
On le voit dans les exemples que je vous ai donnés, hein, que ce soit les grands moulins de Pantin, que ce soit le 16 italien qu'on vient de faire pour la banque. Ça ne peut que se développer pour plusieurs raisons. D'une part, parce que l'obsolescence des bureaux, je l'avais souligné, quand vous voyez
bien sûr.
60% du parc qui a plus de 25 ans, il y a une matière à travailler qui est une évidence. Lorsque vous voyez le décret tertiaire, il va imposer aux grands investisseurs de travailler cette matière. Elle ne peut pas rester matière morte. Il y a un troisième point, c'est que beaucoup de ces opérations tertiaires, qui sont des opérations vides dans des secteurs où les utilisateurs n'ont plus envie d'aller, vont entraîner des reconversions vers d'autres usages. Ça peut être du logement, logement étudiant, logement senior, logement en accession avec une part de logement social. Donc je pense que ces objets-là sont des objets éminemment mutables parce que ce ne sera même plus une question de valeur locative, c'est simplement que l'utilisateur ne souhaitera plus aller sur ces secteurs-là. Et quand vous prenez la demande placée en Île-de-France, qui était à plus de 2 200 000 m2 en moyenne décennale, elle va passer cette année à 1 600 000, 1 700 000, elle était à 1 500 000 l'an dernier, mais on ne reviendra jamais au volume de 2 200 000 ou 2 500 000 comme on a connu dans les très très bonnes années. Pourquoi ? Parce qu'on a à la fois le télétravail qui fait que la présence physique dans l'immeuble est beaucoup moins importante, puisqu'il y a des rythmes à peu près de 2 jours, de jour et demi.
Consommation de moins d'espace.
Consommation de moins d'espace. Et vous avez également le flex office, hein, c'est une forme de bureau partagé, avec des ratios moyens 0,64, qui fait que quand une entreprise, entre le télétravail et le flex office, prenait 15 000 m2, elle va prendre à terme 8 000-9 000 m2 seulement. Donc ça veut dire que c'est des mètres carrés qui vont être mieux centralisés, mieux localisés, moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés. Ça va être le credo des entreprises dans le futur. Mais ça veut donc dire que toute une série de paquebots tertiaires, qui sont en deuxième couronne, vont rester désespérément vides. Donc il y aura une injonction d'en faire autre chose avec l'accord des élus.
Alors justement, vous parlez justement d'injonction. Bien évidemment, la loi climat et résilience, le décret tertiaire, vous a durablement également affecté, puisque vous avez dit aussi transformer, vous adapter. Mais vous aviez, chez BNP Paribas Real Estate, même devancé la réglementation, puisqu'on a remplacé le T par le E, donc la réglementation thermique 2012 à la RE 2020, réglementation environnementale. On a deux écoles dans l'immobilier. Vous avez vos confrères qui disent encore une norme, c'est pesant, et ils le vivent comme une contrainte. Comme une contrainte qui alourdit finalement leurs résultats sur leur bilan. Et d'autres qui disent finalement, on peut faire de cette contrainte une opportunité. dans quelle catégorie vous vous positionnez et comment vous interprétez aujourd'hui cet impact environnemental. On est tous d'accord qu'il faut sauver la planète, qu'il faut améliorer les émissions de carbone, on est bien d'accord, mais il faut quand même loger les gens. Il faut quand même les loger, et on a quand même une contrainte démographique, et l'état de la précarité du logement est quand même assez, assez importante. Vous avez parlé du bureau,
oui.
On parle de 4 à 5 millions de mètres carrés obsolescents sur l'Île-de-France. Question, comment vous, patron de l'immobilier chez BNP Paribas Real Estate, vous adaptez ces injonctions normatives sur le plan de la réglementation thermique et environnementale, et comment vous envisagez finalement votre avenir en fonction de ces éléments-là, puisque on le voit, la régénération, les améliorations thermiques vont faire naître peut-être un nouveau modèle business innovant pour les promoteurs que vous êtes.
Oui. Bah, moi, je pense qu'il faut non seulement faire avec, mais il faut anticiper. Donc, pour moi, cette inflation normative, bon, on l'a subie comme nos confrères, mais je pense qu'elle fait partie de l'ADN du promoteur de demain. Donc, pour moi, c'est pas négociable. Dès le début, d'ailleurs, on avait pris l'engagement sur nos opérations d'être sur les plus hauts niveaux de certification et de labellisation. La banque nous incite d'ailleurs beaucoup à être très vertueux sur ce plan-là. Donc, quelque part, j'ai la chance d'avoir une maison mère qui me donne les moyens d'avoir cette politique verte. Et ce n'est pas le cas de tous, et j'ai cette chance-là. Après, moi, j'y vois une opportunité. Parce que quand vous parlez effectivement des milliers de mètres carrés vides, c'est vrai petit peu partout en Europe. Et donc, moi, j'y vois une injonction positive de transformer ces usages vers d'autres choses qui correspondent à ce que les gens souhaitent. Et ça permettra effectivement de faire avec, c'est-à-dire d'exploiter, de retravailler ce parc de bureaux un peu vide dans certaines communes pour le transformer vers d'autres usages. Et c'est là où toute la technicité de notre industrie va s'exprimer. Et voilà, les opérations que je vous ai citées, qui sont des opérations de reconversion, on a une très grosse opération de reconversion à Clichy sur les quais de 30 000 mètres carrés. C'est un espace de bureau où les gens ne souhaitaient pas aller. On va en faire un magnifique ensemble résidentiel où il y aura un petit peu de social, du logement en accession. À côté, il y aura une résidence étudiante. Ça correspondra à de nouveaux usages et à de nouveaux modes de vie.
Une mixité d'usages.
En fait,
vous fabriquez des morceaux d'huile.
On fabrique des morceaux de ville et surtout, ça évite d'avoir des ensembles tertiaires qui sont vides et qui entraînent une paupérisation des quartiers.
Bien sûr.
Une insécurisation des quartiers.
Bien sûr.
Lorsque vous remettez de la vie sur ces opérations qui étaient de gros îlots tertiaires qui vivaient un petit peu en autarcie, bah, quelque part, vous redonnez sens à la vie. Ce que l'on va faire, par exemple, sur l'ancien siège de Bic à Clichy, on va recréer un ensemble résidentiel mixte et on va redonner un parc de plus d'un hectare aux habitants. On fait la même chose à Villeurbanne, on arrache un terrain qui appartenait à Renault qui s'appelle ACI et en fait on va redonner deux, en fait c'est un parc qui fait 5 hectares et on va redonner 2 hectares d'espace vert. Il y aura une résidence étudiante, du logement social, du logement en accession et puis une résidence s'appelle la Maison de Marie pour les personnes âgées autonomes et semi-autonomes. Et vous voyez, d'une friche industrielle qui était assez polluée, on fait en fait un espace vert de 2 hectares d'eux plus une mixité logement, bureau, accession, social, résidence étudiante, résidence senior. Il y a un peu de l'intergénérationnel et je trouve que ça a beaucoup de sens pour un promoteur de participer à la création de ces quartiers.
Vous l'avez dit, sur le marché du bureau, la demande finalement s'est restreinte puisque on voit quasiment une réduction de plus de moitié dans l'idée du mètre carré. Donc vous avez évoqué d'ailleurs la part du mètre carré dans le bureau. Et finalement, le bureau qui trouvera sa place dans un ensemble beaucoup plus mixte avec du logement, de l'hôtellerie, de la résidence gérée, comme vous le dites, pour étudiants ou des personnes seniors. J'ai un dernier point. Si je vous demandais, Thierry Laroupon, de me décrire un peu de manière totémique, iconique, une réalisation que vous avez d'ailleurs, que l'on mettra en relief dans l'émission.
Alors écoutez, vous allez dire que je reviens là-dessus, mais je pense que ce qu'on a fait sur Metal 57 est assez emblématique d'un bureau qui doit être mieux qu'à la maison. En fait, il n'y a pas...
Quand vous dites mieux qu'à la maison.
Mieux qu'à la maison, parce qu'en fait...
Ça ne ressemble pas à la maison.
Ça ne doit pas ressembler à la maison, ça doit être mieux, ça doit être un espace collaboratif et serviciel. D'accord. Pourquoi ? Parce que sinon, vous restez faire du télétravail chez vous. Et donc l'enjeu, c'est un enjeu de retour, de séduction, du retour au bureau. Et pourquoi est-ce que cet immeuble fonctionne bien ? C'est qu'effectivement, vous n'avez pas un seul bureau individuel, vous avez un ensemble serviciel absolument incroyable, et quand vous êtes dans cette rue intérieure, vous avez l'impression de ne pas être dans un immeuble de bureau. Puisqu'en fait, vous avez 5 ou 6 formules de restauration.
Quand on entre dans la rue de Métal 57,
exactement.
On peut traverser l'immeuble.
Vous pouvez traverser
on peut
l'immeuble.
Ressortir de l'autre côté.
C'est un statut d'établissement recevant du public. Donc, virtuellement, la population de Boulogne peut venir. Ils peuvent venir à la salle de sport. Ils peuvent louer l'auditorium
on
pour faire des fêtes de famille. On peut venir déjeuner. Ils peuvent accéder au rooftop. Voilà. Et donc, on a voulu créer cet espace qui est un espace de mieux qu'à la maison. Parce que je pense qu'en fait, on aura moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés. Voilà. Des mètres carrés d'usage, des mètres carrés de plaisir, des mètres carrés de partage. Et c'est ça que les collaboratrices et les collaborateurs viennent chercher dans une entreprise. C'est un espace de socialisation. Faute de quoi vous restez sur Teams, chez vous, confortablement installé, 5 jours sur 5. Mais c'est pas ce que l'on souhaite.
C'est très clair.
Et je crois que c'est ça l'immeuble de bureau de demain, c'est un immeuble de destination choisie.
Alors justement, juste pour compléter et terminer cette interview, le retour des télétravailleurs au bureau, vous y croyez ? On voit que les mouvements aujourd'hui, les chiffres sont assez intéressants. Et on voit même des directions des ressources humaines dans des grands groupes qui avaient préconisé, pas le tout télétravail, mais fortement le télétravail, revenir à plus de présence. Vous l'attribuez à quoi ? Est-ce que c'est le besoin finalement naturel de l'homme à générer ce contact, de revenir plus au bureau ? Et comment vous le vivez-vous avec vos équipes ?
Alors, la réponse est différente en fonction des industries, en fonction des pays. Je dirais que la norme est plutôt 2 jours à 2 jours et demi par semaine et des ratios de flex-office de 0,60. C'est un petit peu la norme. Les Américains, avec la délicatesse qu'on leur connaît, c'est du tout ou rien. Et donc, on voit par exemple que des grandes banques américaines ont dit on repasse à 100% présentiel. Je ne crois pas que ce mouvement va être un mouvement massif sur l'ensemble des industries. Je pense qu'on aura plutôt une hybridation des usages à peu près à 2 jours, 2 jours et demi avec une intensité d'usage.
Mais vous les revoyez au bureau ou pas, vos clients ?
Pardon ?
Est-ce que vos clients reviennent au bureau ?
Alors, pas au-delà des ratios que je viens de vous dire pour l'instant.
D'accord.
À quelques exceptions près, qui sont plutôt dans la zone anglo-américaine, on va dire ça comme ça, nos clients restent quand même sur des pratiques de 2 jours, 2 jours et demi, hybridation des usages. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui est bien ancré dans les mœurs. Et d'ailleurs, lorsque vous faites des entretiens avec des collaboratrices, collaborateurs, une des questions qu'ils vous posent, c'est quand même, j'ai droit à combien de jours de télétravail ? Donc ça montre bien que c'est structurellement ancré dans les habitudes. Pour autant, il faut proposer quelque chose qui leur donne envie de revenir.
Voilà. Toute dernière question. Vous êtes la filiale de la BNP, une filiale d'une grande banque. Comment vous portez-vous ?
Bien. Notre maison mère va bien. Elle nous permet d'absorber les chocs. En fait, c'est la première fois avec cette crise que la totalité de nos pays, nous sommes présents dans une quinzaine de pays, et la quasi-totalité de nos métiers ont été impactés. La promotion par tous les facteurs additionnels dont on a parlé. La transaction, ce qu'on appelle advisory, par le fait que le marché des capitaux qui pesait 300 milliards d'euros en 2019 en fait 157 en 2024. Et encore, c'est une progression de 23% par rapport à 2023. Vous vous rendez compte? Et puis, la gestion de fonds aussi a été pénalisée par les performances de nos fonds qui ont été moins bonnes. Donc, ces trois métiers ont été tapés. La chance que j'ai, c'est que j'ai un actionnaire solide, résilient et qui apprécie d'avoir un métier immobilier qui offre une plateforme de services immobiliers qui est quand même assez unique par rapport à ses pairs.
C'est là qu'on voit effectivement la puissance de l'actionnaire qui vous permet, on va dire, de surnager ou de survivre à cette crise qui est quand même pas neutre du tout, puisque je rappelle que malheureusement, beaucoup de vos confrères aujourd'hui ont mis un genou à terre, parfois même ont disparu. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau.
Plaisir partagé.
Thierry Laroupon, je rappelle que vous êtes le président de BNP Paribas Real Estate. Cette émission est à retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram bien évidemment, sur LinkedIn, également sur l'application de Radio Immo. Vous pouvez liker, commenter, toujours avec beaucoup de bienveillance. Vous pouvez vos questions et on vous y répond. C'était un numéro spécial du Zoom de l'Info.
Radio Immo, le Zoom de l'Info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.